les fruits, il y a le fructose. On disait, OK, du fructose, mais c'est compensé par les vitamines, par les oligoéléments, les polyphénols, les fibres. Mais en fait, les études se sont accumulées pour montrer que ce n'était pas si simple que ça et que le fructose était un très mauvais sucre mal métabolisé par l'organisme. Vous savez qu'il y a quelque chose que l'on peut doser dans le sang, qui est en relation directe avec le muscle, qui sont les CPK. Si vous poussez trop de fonte de façon très régulière, vous allez créer une inflammation au niveau de vos muscles. Cette inflammation ne va pas rester juste au niveau des muscles, elle va diffuser dans votre organisme. Comme par exemple la glycation, c'est du sucre, du glucose, qui est dans notre organisme. Et ce glucose, quand il est en trop grande quantité, est formé à ce moment-là des agrégats. Alors, ça peut être sous la peau, ça peut être au niveau du cerveau, au niveau des yeux.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code PODCAST1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on a la chance de parler d'un sujet qu'on a un petit peu évoqué, mais aujourd'hui, on va avoir le docteur De Geijer qui va justement nous parler de longévité. On va tout d'abord commencer par définir la longévité dans un premier temps, voir ce que c'est exactement. Est-ce que c'est juste vieillir le plus possible ou vieillir en bonne santé, ça sera intéressant. On va voir les mécanismes justement du vieillissement, le bilan, savoir si on est réellement en bonne santé ou pas, et derrière les moyens d'action. Donc je vais laisser la parole au docteur. Déjà un grand merci d'être présent dans notre podcast 1000%. Je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs.
Oui, merci Alex. Alors moi je suis le docteur Christophe De Geijer et je suis médecin. Et ma thématique, c'est la longévité. Alors, la longévité, c'est pas dans le sens souvent que les gens voient, c'est-à-dire l'espérance de vie. La longévité est un concept qui est actuellement très galvaudé parce que vous avez des crèmes de longévité, des régimes de longévité, des activités physiques de longévité. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Alors que la longévité, c'est un domaine très scientifique, très médical, qui nécessite beaucoup de motivation de la part des gens et beaucoup d'implication. Alors, allons un peu plus loin. Aujourd'hui, quand on parle longévité, on pense en fait à espérance de vie. L'espérance de vie, aujourd'hui, elle est entre 80 ans pour les... espérance de vie à la naissance, hein. Elle est autour des 80 ans pour les hommes, des 85 ans pour les femmes. Plus on avance dans la vie, c'est-à-dire à 50 ans, elle est plus importante. Elle est plus importante pourquoi ? Parce que une espérance de vie, c'est une moyenne. Et donc, si tous ceux à 50 ans, il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts. Et donc, ce qui fait que dans la population qui reste, ils peuvent espérer vivre plus longtemps que l'espérance de vie à la naissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est en quel état? C'est-à-dire, est-ce que l'espérance de vie est le vrai reflet de nos capacités médicales ou pas? C'est une vraie question. Et c'est d'ailleurs pour laquelle, la raison pour laquelle l'INSEE a mis au point un deuxième marqueur qui est l'espérance de vie en bonne santé. Et l'espérance de vie en bonne santé à la naissance, c'est autour des, en moyenne, 63 ans pour les hommes, 65 ans pour les femmes. Ça bouge pas beaucoup, mais c'est en fait, c'est pas vraiment une espérance de vie en bonne santé, c'est une espérance de vie sans incapacité. C'est donc assez différent. Et puis, il y a la médecine de la longévité. Et la médecine de la longévité, c'est quoi? Ben, c'est comment faire pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. En bonne santé. C'est ça l'élément essentiel, en bonne santé. C'est-à-dire pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ne rien changer à ses habitudes, et ça le plus longtemps possible, donc sans être malade également. Alors, pour ça, eh bien, il faut bien connaître un certain nombre de phénomènes qui nous abîment. Parce que quand on parle de vieillissement de façon générale, le vieillissement en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le vieillissement, c'est le temps qui passe. Mais de la conception de l'individu à la fin de l'adolescence, le vieillissement, il est positif. C'est ce qu'on appelle, nous, du développement. Et dès la fin de l'adolescence, eh bien, on se rend compte qu'on rentre dans une deuxième phase qui est la sénescence. Et la sénescence, c'est une dégradation progressive, insidieuse, de l'ensemble de nos systèmes physiologiques. Alors, qu'est-ce que c'est des systèmes physiologiques? C'est le cœur, c'est les artères, les poumons, les os, les muscles, le cerveau, la peau, etc., etc. Donc, tous ces systèmes se dégradent, et à partir d'un certain moment, cette dégradation va aboutir à finalement une fragilisation de notre organisme. Et c'est là où les maladies rentrent en ligne de compte. Et quand on parle de maladies à ce moment-là, ben, c'est pas compliqué. C'est que ces maladies vont, je parle de maladies chroniques, type maladie cardiovasculaire, type diabète, etc. Quand elles vont survenir, elles vont accélérer notre sénescence et ça va dans la mauvaise direction. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la sénescence. Parce que plus on va moduler cette sénescence, hein, je ne dis pas qu'on peut l'arrêter, je ne dis pas qu'on peut rajeunir, je dis qu'on peut la moduler. Et à partir du moment où on module cette sénescence, eh bien, à ce moment-là, on peut rester, si vous voulez, du bon côté de l'activité de notre organisme. On peut éviter qu'il se fragilise. Et donc, ça devient très positif. Et la sénescence, donc travailler sur la sénescence, ben, ça implique qu'on commence tôt, le plus tôt possible en fait. Mais d'un autre côté, ben parce qu'on est sénescent à 30 ans, hein, on est sénescent à 25 ans, 35. Et tout ça s'accélère. Et donc, c'est pas... Travailler sur sa longévité, c'est pas travailler, c'est pas attendre qu'on ait 70 ans. C'est le plus tôt possible, le plus tôt possible. Et ça, c'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est qu'il n'est jamais trop tard. C'est que vous pouvez avoir 80 ans, 90 ans, et puis vous pouvez vous dire, mais attendez, moi, je veux maintenant qu'on s'occupe quand même de ce qui me détruit. Et ce qui m'a déjà pas mal détruit. Donc, c'est vraiment quelque chose, cette sénescence est vraiment quelque chose qu'il faut savoir prendre à bras le corps. Mais c'est pas un truc, c'est pas quelque chose que l'on fait en cosmétologie. C'est quelque chose qui va toucher l'ensemble de nos systèmes.
Oui, parce que vous le dites. Justement, vous dites qu'il y a notre mode de vie impacte énormément notre vieillissement. Vous parlez notamment de 20% génétique et 80% qui sera à peu près lié à notre mode de vie, même si ça reste bien sûr des chiffres approximatifs. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail des mécanismes du vieillissement parce qu'on entend beaucoup de choses. On parle de la glycation. Il y a aussi l'inflammation de bas grade qui semble jouer un rôle. La diminution aussi du nombre de mitochondries dans le corps et aussi de leur efficacité. Comment on pourrait résumer un petit peu tout ça? Est-ce que ça, c'est des fausses croyances? Est-ce que c'est réel? Quel est votre avis sur cette question?
Ben, il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Il y a des mécanismes qui sont des mécanismes bien connus, anciens. On les connaît depuis les années 1960, hein, comme par exemple la glycation. La glycation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une... C'est du sucre, du glucose, qui est dans notre organisme. Et ce glucose, quand il est en trop grande quantité, eh bien, il va agréger des protéines, des lipides, et former à ce moment-là des agrégats. Alors, ces agrégats peuvent être formés au niveau de l'endothélium vasculaire, donc de la partie interne des artères. Ça peut être sous la peau, ça peut être au niveau du cerveau, au niveau des yeux. Donc tous ces agrégats ensuite vont être reconnus par le système immunitaire qui va dire « mais c'est quoi cette poubelle qui est là ? Il faut que je m'en débarrasse ». Donc ils vont, le système immunitaire va essayer de détruire ces agrégats, ne va pas réussir, ça va créer une inflammation. Cette inflammation ensuite va amener à une cicatrisation, et cette cicatrisation, c'est au fond une sclérose. Donc du coup, les artères se rigidifient, le cerveau fonctionne moins bien, la peau perd son élasticité, et ce sont autant d'exemples qui ont simplement pour phénomène de départ le sucre. Mais on en reparlera parce que ça a des conséquences sur la nutrition, bien sûr, et sur l'exercice physique. Vous avez d'autres phénomènes comme le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est une vraie réalité. C'est en fait des molécules qui sont au départ des molécules d'oxygène, mais qui sont un petit peu déformées, ce qui fait qu'elles sont très réactives. Et du coup, pareil, elles vont attaquer, détruire les parties du corps qu'elles vont rencontrer. Alors ça peut être des membranes cellulaires, ça peut être des enzymes, ça peut être plein de choses. Et donc là aussi, elles vont abîmer le fonctionnement de notre corps. Ça peut être...
Excusez-moi, je me permets juste de rebondir sur le stress oxydant. Pour vous, il serait causé par quoi ? On a souvent cette image de, pour les sportifs d'endurance, notamment beaucoup trop de sport qui créerait un gros stress oxydatif. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent l'amener ? Et que dire aussi pour ces gens qui font beaucoup de sport parfois ? Est-ce que ça peut être justement... toxique, parce que certains disent, on a eu des spécialistes qui sont venus au niveau de l'endurance, qu'on avait quand même un système qui s'adaptait au fur et à mesure, et plus on créait de stress oxydatif, et plus notre corps était capable aussi de s'adapter et donc de recycler ce stress. Donc, quel est votre avis avant de passer sur les autres mécanismes?
Alors, il y a beaucoup de choses qui créent des radicaux libres, ou des espèces radicalaires de l'oxygène. Vous avez d'abord la pollution, ce qu'on respire. Le poumon est un grand vecteur de radicaux libres. Vous avez ensuite tout ce qui est en relation avec des efforts qui vont démesurer, qui vont abîmer notre organisme. Vous avez un muscle qui souffre, ça va dégager des radicaux libres. Vous avez d'autres choses qui vont venir de maladies. Si vous avez une infection, qu'elle soit virale, bactérienne, vous avez les intoxications, les gens qui fument. À chaque fois que vous respirez de la fumée, eh bien à ce moment-là, vous êtes inondé de radicaux libres. Donc tout ça, les sources sont multiples. Et donc vous voyez que l'oxygène est entre deux extrémités. D'une part, c'est nécessaire à la vie, et d'autre part, ça détruit la vie. C'est toujours une histoire de proportion. Alors, c'est vrai que les interlocuteurs, donc quand on est en premier niveau, trop de sport, si on fait souffrir son corps, donc on va augmenter sa production de radicaux libres. Mais le corps, il ne va pas rester neutre par rapport à ça. Il va essayer de se défendre. Donc les processus de défense vont se mettre en place et vont être renforcés. Et on peut s'attendre à ce que, progressivement, c'est tout l'intérêt d'un entraînement, progressivement, votre corps soit plus à même à lutter contre ces vagues de radicaux libres qui seront liées à des entraînements qui, pour moi, physiologiste, sont forcément mal faits, parce que un entraînement n'est pas fait pour faire souffrir son organisme. Il faut juste arriver à la limite où vous obligez le corps à s'adapter à ce que vous lui demandez. Par exemple, un muscle, si vous lui en demandez énormément, il va souffrir, va faire des radicaux libres. Si vous lui en demandez progressivement un tout petit peu plus, il va entendre cette demande et se fabriquer et se renforcer. Donc, dans la vie et dans la santé, on parle souvent d'équilibre ou d'homéostasie. D'homéostasie, ça veut dire que il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais il faut le maintenir, cet équilibre. Cet équilibre est fragile. On peut le le dérégler à travers certains comportements, des comportements alimentaires, des comportements d'exercice physique, des comportements d'intoxication, la drogue, le tabac et d'autres. La pollution fait partie, mais la pollution, on n'a pas tous la possibilité d'habiter en milieu à la campagne et respirer du bon air. Donc, il y a plein de choses qui nous échappent. Donc, ces équilibres sont aussi de plus en plus fragiles en fonction de notre vieillissement. C'est-à-dire que ce qu'on supporte bien à 20 ans ou 25 ans, on le supportera beaucoup moins bien à 50 ou à 70. Donc, il faut tenir compte de tout ça.
Ok, je me permets de rebondir justement par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a quand même pas mal de personnes qui nous ont parlé dans ce podcast du lien qu'il y aurait entre la longévité et la VO2 max. On sait que la VO2 max, il va falloir quand même faire des séances à haute intensité qui vont peut-être être difficiles. Donc, vous dites qu'il faut quand même faire attention à pas être trop intense. Est-ce que parfois, c'est pour donner du contexte aux gens, parce que j'ai peur que certaines personnes qui nous écoutent se disent « Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut pas trop faire de sport, il faut pas faire de l'intensité. » Vous n'êtes pas quand même en train de dire qu'il faut jamais faire des efforts intenses. C'est juste que ça va être des efforts qui doivent être progressifs, bien quantifiés, bien dosés avec une progression. C'est juste pour que les gens le comprennent.
Ce que je veux vous dire, non mais vous avez raison de préciser les choses, c'est important. D'abord, la VO2 max, c'est une épreuve où on va amener le corps, soit à travers une bicyclette ou un tapis roulant, un maximum de ses capacités. Le maximum de ses capacités. Et on va pouvoir mesurer à travers un masque les échanges gazeux, donc la consommation d'oxygène, la production de gaz carbonique. Et quand on est au maximum de ses capacités cardiaques, pulmonaires, ben on dit qu'on est arrivé à la VO2 max. C'est une information, je dirais, de performance.
Pas de santé.
Mais vous m'avez arrêté. Excusez-moi. C'est quelque part également le signe d'un certain degré de santé. Parce que plus vous êtes élevé en VO2 max, ça veut dire plus votre système fonctionne bien. D'accord ? Alors, à partir de là, il est clair qu'au quotidien, on ne fonctionne pas à tous les jours à essayer d'atteindre sa VO2 max. Parce que le gars qui fait la mesure, il donne le maximum de lui-même et après, il doit se reposer un petit peu. Hein. Et généralement, l'effort dure pas très longtemps. Hein. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, vous êtes avec votre VO2 max et vous demandez un fauteuil, voire votre lit. Donc ça, c'est pas un entraînement. C'est une mesure à un instant T de vos capacités maximales. Plus vous êtes entraîné, plus vous êtes capable d'avoir une VO2 max élevée. Et plus vous êtes avec un système cardiovasculaire, défaillant, plus elle sera basse. Alors, quand on parle d'exercice physique et de longévité, il faut bien mettre les choses à leur place. Notre organisme n'a jamais été bâti pour être sédentaire. Donc l'activité physique doit faire partie de nos routines de santé. Ces routines de santé, elles prennent du temps, elles prennent de l'énergie. Et là où je vous parle de routines de santé, il y a deux catégories de gens. Vous avez les gens qui ont des habitudes de sportifs, qui aiment le sport et qui vont vraiment... Si on leur interdit ou s'ils n'ont pas la possibilité de faire leurs exercices, ils vont pas être contents, ils vont être malheureux. Mais c'est quelle partie de la population? Elle n'est pas si grosse que ça. Et ensuite, vous avez tous les autres. Et ceux-là, il faut qu'ils fassent de l'activité physique leur routine. Et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie parce que ils ont, mais alors, des listes entières d'excuses. Mais c'est incroyable. Entre j'ai pas le temps, je suis fatigué, machin et bidule, c'est trop loin, ça coûte cher, c'est tout ce que vous voulez. C'est dramatique. Donc, c'est d'ailleurs un des éléments que l'on retrouve dans toutes les prises en charge de longévité. Il faut amener les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. L'exercice physique est un exemple. Alors là, On est obligé, sur quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui n'aime pas le sport, on est obligé de le convaincre de l'intérêt d'en faire. Si vous prenez mon exemple à moi. Moi, bon, je tiens mes 3 heures de sport par semaine, en moyenne, des fois un peu plus, des fois un peu moins. 3 heures de sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 45 minutes avant, il faut que j'arrête ce que je fais, je me prépare, je vais à la salle et je commence. Et il me faut 45 minutes pour revenir. Donc, on est déjà à 2h30.
C'est pas optimisé, ça, docteur. C'est pas optimisé. C'est pas optimisé. Peut-être qu'il y a une solution.
Ça dépend du temps. Ça dépend si vous habitez en face de votre salle, c'est plus facile que si vous devez prendre votre voiture et y aller. Donc, moi, je suis à Paris. Je suis obligé d'y aller. Et maintenant, à Paris, vous savez, il est indiqué qu'on ne peut pas faire plus de 30. C'était même pas la peine de mettre des panneaux parce que de toute façon, on va pas plus que 25. D'accord?
Ça marche.
On peut rien faire. Donc, par définition, c'est comme ça. Deuxièmement, franchement, quand on regarde ce qui se passe dans la salle, et moi, je suis dans une salle plutôt qui est sympa, je connais les gens, on les revoit parce que si on fait des exercices de musculation, forcément, on regarde les autres, on est un petit peu au spectacle. On fait son exercice, mais on s'ennuie pas. Et il y a des gens que je vois depuis des années, mais qui sont toujours à soulever le même poids. Et ils soulèvent le même poids, ils sont très confortables pour soulever ce poids, mais ils ne font aucun exercice. Et en plus, ils bavardent. Il y a ceux qui passent, qui sont sur une machine, qui font 10 mouvements et qui ensuite passent 4-5 minutes sur leur smartphone. Bon, ils se sont dit, j'étais à la salle de sport. Ça, tout ça, ça ne compte pas. Je veux dire, c'est ridicule, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est le sport prétexte. Et ce sport prétexte, il nous donne l'impression de faire quelque chose d'utile pour notre santé alors qu'on ne le fait pas. Maintenant, il y a une autre alternative qui est le sport quotidien. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, 3 fois 1 heure, ça fait 180 minutes de sport. Je simplifie à l'extrême. Hein. Mais on peut aussi se dire, si on divise ces 180 minutes par 7, ça veut dire que tous les jours, on peut faire un petit peu. Et tous les jours, on peut faire quoi? On peut monter ses escaliers. Si vous habitez au 3e ou au 4e étage, ça veut dire que vous allez passer 1 minute ou 2 pour monter. Vous pouvez redescendre. Ça fait marcher, descendre les escaliers fait aussi fonctionner certains muscles. Hein, donc, c'est pas inintéressant. Si vous marchez dans la rue, bah, là aussi, vous allez faire des efforts ou pas. Parce que là, on est sur un vrai drame, excusez-moi.
Non, allez-y.
C'est que, en fait, ces minutes de sport ont un intérêt que s'ils sont vigoureux, c'est-à-dire que si vous montez votre escalier à fond la caisse. Si vous marchez dans la rue, c'est rapidement. C'est pas je traîne, comme vous voyez tout le monde dans la rue. Il traîne, tout le monde passe son temps à traîner. Donc, mais c'est une autre organisation de l'activité physique. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais ces plein de choses nécessitent effectivement d'être contrôlées.
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça, pour prendre soin de sa santé, ça prend du temps, c'est un engagement personnel. Chacun avance à son rythme et ça, c'est normal. Mais est-ce que vous trouvez que 3 heures de sport par semaine, quand on voit qu'on a des journées de 24 heures et qu'on a 7 jours dans la semaine, est-ce que si vraiment je suis dans une optique de longévité, de vouloir bien vieillir en bonne santé, est-ce que vous trouvez ça assez déjà pour vous?
Parce que moi, personnellement, pour moi, c'est le minimum.
Voilà, le minimum, on est bien d'accord.
Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. Okay. Alors ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est l'évaluation de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, bon, dans mon institut, on va par exemple mesurer votre masse musculaire. On va la regarder, on va la comparer à un certain nombre d'abacs en fonction du sexe, de l'âge, Et on va voir si déjà vous n'êtes pas en sarcopénie, c'est-à-dire en insuffisance musculaire. Et il y a beaucoup de gens qui ont 50 ans à Paris qui sont en sarcopénie déjà. Donc ils sont très bien, ils sont très fins, ils sont sveltes, ils sont très actifs, mais ils sont en sarcopénie. Ils sont en insuffisance de masse musculaire. Et c'est important, pourquoi ? Parce que la masse musculaire, c'est pas simplement un élément de force pour se déplacer. Le muscle a aussi un intérêt endocrinien, le muscle a aussi un intérêt immunitaire, le muscle a aussi un intérêt au niveau de la consommation des sucres. Donc, le muscle est vraiment très important et c'est le reflet de notre métabolisme de base. Donc, si vous voyez chez quelqu'un qui manque de 3 kilos ou 4 kilos de muscles, vous allez lui dire, il me faut me faire, en 6 mois, 3-4 kilos de muscles.
Donc, est-ce qu'on doit cibler des muscles en particulier, docteur, ou peut-être cibler voilà, les gros muscles des jambes, notamment fessiers, qui sont assez faciles à développer, plus que voilà, par exemple des bras où ça va être plus dur d'avoir quand même du volume musculaire. Est-ce que vous avez un axe prioritaire sur cet objectif-là ?
Non, nous, on regarde l'ensemble de la masse musculaire. On regarde l'ensemble de la masse musculaire, sachant qu'ensuite, en fonction de ce que les gens aiment, peut-être certains développeront plus leur masse au niveau des membres inférieurs, d'autres plus au niveau pectoral et des bras, des épaules. Donc, tout ça, ensuite, c'est une petite liberté qu'on laisse aux gens, sachant qu'on aime bien tout de même les gens se développent de façon harmonieuse, hein, parce que sinon, c'est pas c'est non sûr. Plus forcément top. Donc, mais revenons à mon histoire de réévaluation à 6 mois. Donc, à 6 mois, vous réévaluez, vous refaites une composition corporelle. Et vous voyez que les gens qui vous ont juré, promis qu'ils faisaient tout ce que vous leur disiez, c'est croix de fer, croix de bois, on leur demande de ne pas cracher par terre quand même, eh bien, ils perdent 2 kilos. L'objectif, c'était de prendre 3 kilos, ils perdent 2 kilos. Ce sont des gens sérieux quand même, hein.
Ben non.
On leur pose des questions. Alors, la vraie vie, la réalité, la première des réalités, c'est qu'ils font vaguement ce que vous leur demandez de faire. Vaguement. Et donc vraiment, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est tout l'intérêt d'avoir un coach, un vrai coach. Parce que le vrai coach, si vous voulez, c'est celui qui vous emmène sans se blesser, qui vous emmène vers véritablement les limites de vos capacités. Et c'est dans les limites, ces limites qu'il faut chercher pour progresser, pour faire du muscle. Et moi, je suis comme tout le monde. Hein. Des fois, sur certains mouvements, si je dois soulever, je dis n'importe quoi, hein, 25 kilos, c'est facile, je reste à 25 kilos. Je me dis 30 kilos, ça sera la semaine prochaine, ou 40 kilos. Alors, je peux le faire. Et un coach va être en face de vous, vous regarder dans les yeux et me dire, Christophe, allez, 40 là maintenant. Donc, et puis vous, bizarrement, vous arrivez à 50. Ce que vous ne feriez pas seul. Alors, je donne des exemples un peu déconnectés, des mouvements, des groupes musculaires, etc. Mais faire du sport sans être accompagné dans une salle, c'est très compliqué si on n'est pas soi-même quasiment un professionnel.
C'est sûr. C'est vrai que nous, en étant kiné dans ce podcast, on a cette facilité à s'entraîner tout seul, mais vraiment, faites-vous encadrer par quelqu'un ou alors essayez vraiment de faire des recherches par vous-même si vous n'avez pas le budget de prendre un coach. Il y a plein de contenu, on a fait plein de podcasts, notamment sur ce sujet-là du renforcement musculaire, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'avais une question avant de partir plus sur la partie cardiaque. C'est quoi pour vous un bon pourcentage masse grasse et masse musculaire pour les auditeurs peut-être qui voudraient tester ça ? Quelque chose qui est convenable pour l'homme et pour la femme, parce que certains disent aussi que c'est un peu plus de masse grasse pour la femme serait intéressant. Pour vous, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, une fourchette ?
Alors, avant de s'intéresser au pourcentage, et je vois que certains s'intéressent aux formes des femmes, donc ça veut dire un peu plus de masse grasse à certains endroits. Non, avant, il faut également se poser d'autres questions. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent très sérieusement et qui ne prennent pas de muscle. Alors, il y a deux choses qu'il faut voir, mais c'est tout l'intérêt de remesurer. Parce que vous pouvez avoir une insuffisance de protéines. On est à une époque où les gens mangent de moins en moins de protéines, pour des tas de raisons, hein. Bonne ou mauvaise, ils mangent moins de protéines. Or, les protéines sont indispensables pour faire du muscle. Alors, certains se lancent vers les protéines de whey, les acides aminés, etc., ce qui peut compenser. Et puis, il y a les facteurs hormonaux qui jouent. Si vous êtes un homme, ou une femme d'ailleurs, avec des taux d'androgène trop bas, vous pouvez pédaler, ça ne donnera pas de résultat. Vous avez aussi toutes les problématiques inflammatoires. Quand vous avez trop d'inflammation, eh bien effectivement, ça peut rendre un certain nombre d'exercices compliqués, c'est-à-dire que les effets ne seront pas attendus. Donc, il y a des tas de raisons autres, en dehors de votre entraînement, qui peuvent faire que votre entraînement ne débouche sur rien, ou pas assez. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est très médical. Ensuite, nous avons une vision qui est une vision très personnelle des gens. C'est-à-dire que on déteste absolument donner des proportions, dire « Ok, une femme est bien à 20 ans, à 26% de graisse, un homme ne doit pas dépasser les 14, enfin ou les 12. » Non, chaque individu est différent. Et il faut être capable de ne pas aller trop loin. Il faut être capable de respecter ces équilibres dont je vous disais tout à l'heure qu'ils sont si importants pour une longévité en bonne santé. Et moi, je crains toujours les gens qui se disent, des sortes de biohackers, entre guillemets, qui se donnent des objectifs parce qu'ils ont vu dans tel podcast ça, dans tel bouquin ça, tel Américain a dit ça, ils se disent, c'est ça mon objectif. N'importe quoi. Quand vous avez une deux chevaux, vous ne pourrez pas monter à 300 km/h. Vous ne pourrez pas. Et on est tous différents génétiquement parlant. D'accord ? On ne vient pas du même endroit. Donc, vouloir imposer des normes à travers certaines moyennes me paraît en tout cas j'allais utiliser le terme dangereux. Parce que d'une part, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, on est frustré, très souvent on laisse tomber, alors qu'en réalité, il y a des choses passionnantes que l'on peut faire. Il y a une toute petite chose dont j'aimerais vous parler.
Allez-y.
C'est les gens qui restent avec une masse musculaire identique, globale sur l'ensemble de l'individu, mais vous allez voir que, par exemple, en fonction de leur entraînement, ils vont avoir des muscles des jambes beaucoup plus prononcés, et peut-être les bras, etc., et qui ne vont pas comprendre qu'on leur dit « Ok, vous avez progressé, on voit mieux vos muscles, blablabla, mais votre masse musculaire est la même. » Eh bien, ça arrive surtout chez les gens qui sont en carence de protéines. Parce que du coup, le muscle a envie de se développer, mais il a besoin de protéines. Et si vous ne lui apportez pas à travers votre nutrition les protéines nécessaires, eh bien il va vous les chercher dans les autres muscles que vous n'entraînez pas. Et donc, ensuite, quand on fait des cartographies musculaires et que l'on va voir qu'il y a 20% de plus de masse musculaire sur les bras, et il peut y avoir au niveau lombaire, au niveau des muscles axiaux, moins 15% et moins 5% au niveau des jambes, tout ça en fonction des entraînements. Donc vous voyez que c'est compliqué. Et vraiment, là encore, on voit que simplement faire des mouvements, c'est un peu passer à côté. Alors, c'est pas passer à côté du problème, mais c'est pas forcément aussi simple pour tout le monde.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
J'imagine bien. Et est-ce que vous donnez une fourchette en termes de protéines? Je vous taquine un petit peu, mais est-ce que vous donnez du coup un conseil en termes de protéines par jour à vos, même si c'est toujours pareil à individualiser pour les gens?
Alors,
Parce que vous dites qu'il y a notamment un problème de protéines, les gens en sous-consomment. Est-ce qu'il y a un repère à peu près classique?
ça dépend aussi des objectifs, ça dépend de votre métabolisme, ça dépend de votre taille, ça
Bien
dépend de
sûr.
mille choses. Mais globalement, on était avec, à une époque, avec des apports de protéines de quasiment 1 gramme par kilo par jour. Maintenant, on est plutôt à 2 grammes. Et peut-être que 1 gramme 8 ou 1 gramme 6 est suffisant, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, c'est vraiment des quantités importantes.
Oui,
Hein, c'est pas
c'est énorme.
juste j'ai pris un steak haché
Deux.
de 50 grammes. Hein, c'est pas ça. Les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que ça veut dire prendre des protéines. Donc il y a toute une éducation. Nous, on a une nutritionniste qui va pouvoir coacher les gens également pour qu'ils aient assez de protéines si on est dans une logique de prise de masse musculaire. Et la masse musculaire, comme je vous l'ai dit, elle est essentielle en termes de métabolisme général parce que le muscle travaille 24-24, 7-7, sauf dans les moments de sommeil paradoxal où là, pendant pas très longtemps, mais la nuit, il va être complètement relâché. Mais là, vous êtes assis, je suis assis, on a plein de muscles qui travaillent.
Bien sûr.
Donc, et ils vont consommer de l'énergie, ils vont consommer des calories. Et ça, c'est important. Donc, avoir une activité physique pour maintenir sa masse musculaire est fondamental.
Donc là, on
La
apporte
maintenir,
ou
pardon,
la
la faire
développer.
progresser, bien sûr.
Bien sûr, on avait compris. Merci pour ce petit rappel. Voilà, on a parlé de la partie plutôt renforcement musculaire. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le rôle essentiel des mitochondries sur le corps humain et notamment sur le vieillissement. Est-ce qu'elles évoluent au fil du temps? Comment on fait justement pour les développer? On parle beaucoup de l'entraînement cardiaque et surtout de la basse intensité qui permettrait d'augmenter le pool mitochondrial. Est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs parler justement de cette mitochondrie, de son rôle dans le vieillissement et comment elle évolue au fil du temps?
Alors la mitochondrie, c'est une partie, c'est l'équivalent de petites centrales électriques dans nos cellules. Une cellule, pour bien fonctionner, doit avoir de l'énergie, qui est l'ATP, l'adénosyltriphosphate. Sauf que il faut le fabriquer. Et on a donc ces organelles très particulières que sont les mitochondries, où se passent d'ailleurs énormément de phénomènes oxydatifs. Donc beaucoup de mitochondries, quand elles vieillissent, seront à l'origine d'une production supérieure de radicaux libres. Mais donc elles sont alimentées, ces mitochondries, et puis elles fabriquent l'ATP. L'ATP sera utilisé pour faire tout ce que peut faire une cellule. Ça peut être une cellule musculaire, ça sera donc du mouvement. Ça peut être des hormones pour une autre type de cellule. Ça peut être du collagène pour une troisième type de cellule, etc. Donc l'énergie est au cœur du fonctionnement de la cellule. C'est un peu comme l'électricité dans nos villes et nos campagnes, hein, parce que vraiment, l'électricité, on la retrouve partout. Elles vont vieillir en devenant moins nombreuses et moins efficaces. Donc, on peut ensuite soutenir cette activité à travers un certain nombre de nutriments qui peuvent aider à son fonctionnement. On peut aussi apporter des éléments très énergétiques, comme de la NADH, des choses comme ça. Et puis, on peut favoriser leur maintien ou leur extension à travers, effectivement, des mouvements chroniques, à travers une activité, mais qui va toujours dans le même sens. On est obligé de faire un minimum de travail. Donc, et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de VO2 max. La VO2 max est aussi le reflet, pas simplement de notre capacité respiratoire ou cardiaque, mais aussi de notre activité mitochondriale. Donc, et comme elle se dégrade, eh bien, ça va favoriser, ça sera un des éléments importants du vieillissement. Et il y a des Américains Je pense à David Sinclair à Harvard, qui travaille sur tout ce qui nourrit les mitochondries et qui montre que quand on nourrit une souris avec certaines molécules, eh bien, elle rajeunit. Alors, ensuite, c'est un terme que je n'aime pas, rajeunir, parce que c'est pas si simple que ça et c'est un petit peu quelque chose qui va chercher des éléments un peu mythiques dans notre cerveau, mais on va parler plutôt d'amélioration fonctionnelle. Hein? Donc c'est possible, et les mitochondries, alors ça donne un peu naissance aussi à ce que certains ont appelé la médecine mitochondriale ou la médecine énergétique, mais tout ça rentre réellement dans la médecine de la longévité. Quand on parle de médecine de la longévité, on essaye d'être le plus général possible. Et c'est toujours pour moi très triste de voir que des gens vont se concentrer sur un point, les radicaux libres, la nutrition, l'activité physique, les hormones. Parce que c'est un petit peu comme si vous ameniez votre voiture pour faire sa révision au garage et que le garagiste ne s'occupe que de votre roue avant droite. Alors vous ressortez votre voiture avec une belle roue avant droite, les trois autres sont crevées, la direction marche pas, le carburateur dysfonctionne. Donc c'est la médecine de la longévité ne peut se concevoir que globalement. C'est un point qui est fondamental.
Et je me permets de rebondir sur la mitochondrie. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Vous mettriez l'entraînement cardiaque au plus haut niveau, justement, pour son développement. Et vous avez parlé aussi de nutriments, peut-être de compléments ou de molécules, justement, qui permettraient à aider son développement. Quels sont-ils? Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans le détail pour donner des pistes, peut-être, à nos auditeurs?
Bon, dans le cadre du fonctionnement de la mitochondrie, il y a, un fonctionnement, un cercle, que l'on appelle le cercle de Krebs, le cycle de Krebs, qui est la terreur des étudiants en médecine de première et de deuxième année, parce que c'est toujours très compliqué, et je pense que vous l'avez étudié également. Ouais. Et tout ce qui va altérer ce fonctionnement, ou tout ce qui va favoriser ce fonctionnement, évidemment, sera à rejeter ou au contraire à développer. Sur l'entraînement physique, alors il y a un certain nombre de molécules et la NADH est une molécule qui est très importante, c'est le nicotinamide. Et vous avez également d'autres molécules qui peuvent être utilisées, mais sont des molécules globalement assez coûteuses, que l'on peut trouver un petit peu partout sur Internet ou dans certaines parapharmacies. Ensuite, vous avez, comme toujours, à partir du moment où on est une activité, eh bien, on développe les parties du corps qui sont liées à cette activité. Donc, si vous faites fonctionner vos muscles, eh bien, vous allez maintenir l'activité mitochondriale. Vous allez la stimuler. Donc, toute activité, alors ensuite, ça peut être de la musculation, ça peut être du cardio-training. Mais le cardio-training a un côté face et un côté négatif, un côté positif et un côté négatif. C'est-à-dire que le cardio-training, il ne faut pas le faire, à notre sens, au-delà d'une certaine limite. Et là, c'est très intéressant d'avoir justement le seuil d'anaérobiose. Quand on fait un exercice, alors, quand on met un masque à quelqu'un et qu'on lui demande de faire un exercice, on voit très très bien sa consommation d'oxygène et sa production de gaz carbonique. Et il y a toujours un différentiel entre les deux. Alors, ce différentiel, il va suivre l'effort, évidemment. Et à un moment donné, le différentiel va se réduire, pour justement disparaître, et ensuite les proportions vont s'inverser. Et c'est à ce moment-là qu'on passe d'un métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie. Et quand on passe à un métabolisme anaérobie, qui ne dépend plus donc de l'oxygène, ça veut dire que l'oxygène n'arrive plus suffisamment à vos organes pour pouvoir faire leur job. Les organes passent sur un plan B, l'anaérobiose, et c'est là où vous commencez à former de l'acide lactique, à acidifier votre organisme. La tension artérielle monte comme ça, la fréquence cardiaque monte également, et ça finit éventuellement avec beaucoup de sueur, des essoufflements, voire des crampes. Donc ce qui est intéressant, c'est de toujours travailler, quand on fait un travail d'endurance, toujours travailler en deçà de ce seuil d'anaérobiose, qu'on détermine très facilement avec des fréquences cardiaques. Et c'est vrai que beaucoup d'expériences montrent qu'on a intérêt à travailler à bas niveau. Alors bas niveau, c'est pas 60 battements par minute, hein. Ça va être 120, 130 oui. battements par minute en fonction de ce que vous êtes, de votre âge. Et pour beaucoup de gens, c'est des seuils d'entraînement qui sont très faibles.
Oui, c'est très bas.
Ce qui est très bas. Il y a beaucoup de gens qui vont à 120, ils marchent simplement. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que le cœur est une pompe à deux temps. Elle éjecte, elle se remplit. Donc le débit du cœur est fonction du volume d'éjection systolique, donc du volume qui est éjecté à chaque contraction, fois le nombre de contractions. Logique. Normalement, sur un cœur bien entraîné, eh bien, quand on commence un effort, eh bien, vous allez avoir le volume d'éjection systolique qui va commencer à augmenter avant même que n'augmente la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque sera dans un deuxième temps. Chez les gens non entraînés, c'est l'inverse. La première chose qui monte, c'est la fréquence cardiaque. Et ça m'amuse toujours, parce que ça arrive à ce paradoxe que des tas de gens en salle sont très fiers parce qu'ils montent à 180, mais en fait, c'est un signe de quasiment de dysfonctionnement. Parce que quand vous êtes à 180, votre cœur, c'est une sorte de course en avant. Votre cœur, il s'épuise, il s'use. Parce que normalement, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Je reviens.
C'est très bien, ne vous inquiétez pas. C'est parfait.
Merci. Quand votre cœur a éjecté le sang, il va se remplir. Mais il se remplit en deux temps. Dans un premier temps, le sang coule passivement de l'oreillette vers le ventricule. Faudrait que j'ai un schéma là pour...
Non, mais vous inquiétez pas, les gens sont assez intéressés, donc je pense qu'ils savent très bien de quoi vous parlez, vous inquiétez pas.
Super. Et dans un deuxième temps, l'oreillette se contracte, pousse le sang à l'intérieur du ventricule, et du coup, augmente le volume du ventricule. Il distend le ventricule. Et c'est là où on est à l'idéal. Parce que quand vous allez au-dessus de 130, 140, 150, vous perdez cet effet-là. D'accord ? Donc le cœur, il fait ce qu'il peut pour assurer à l'organisme un minimum de débit et il part dans une sorte de délire qui n'est pas bon. Si vous regardez, si vous cherchez à savoir ce que font par exemple des vrais athlètes de fond comme les cyclistes, le cœur d'un cycliste, il bat lentement. Et à chaque contraction, il débite un maximum. Hein? Ils vont pas vite, les cœurs des cyclistes. Et ça leur permet donc de faire de très longues étapes, parfois que l'on compte en centaines de kilomètres, et ils sont là, chroniquement, ils avancent. Le cœur, il est capable de débiter des 30 litres par minute, mais en battant à 80, à 100. Ils ne vont pas monter à 180. Les 180, les gens qui disent « Ouais, je suis monté à 180 », c'est n'importe quoi. Ils abîment leur cœur. Le cœur bat trop vite. C'est comme quand vous êtes dans une voiture qui est en turbo, votre moteur est en turbo. C'est super sympa, on a plein de sensations, mais physiologiquement, c'est pas top.
Excusez-moi, je me permets de rebondir, parce que c'est vrai, dans le mode de l'entraînement, on aime bien polarisé, ça veut dire qu'on a vraiment 80-90% de son entraînement qui est à basse intensité. Donc vraiment, on est sur du 100, comme vous dites, entre 120, 130, 140. Mais par contre, quand surtout on va essayer d'aller chercher un développement justement de ses seuils, comme vous en avez parlé, et également de sa VO2 max, on va être obligé de faire des séances à haute, voire très haute intensité, avec bien sûr des temps de soutien qui seront très courts. Et donc, un entraînement qui va représenter peut-être une à deux séances dans la semaine pour quelqu'un qui s'entraîne à peu près 8 fois par semaine. Je parle bien sûr pour vraiment des gens qui sont compétiteurs. Donc, vous voyez ce côté-là de l'entraînement, développement VO2 max avec des très hautes intensités cardiaques, comme quelque chose de plutôt négatif pour la santé sur du long terme et pas forcément positif. Même si on va au final augmenter sa VO2 max, on va quand même abîmer son cœur et le rapport entre les deux est plutôt déficitaire pour vous ?
Alors, il y a en fait deux logiques différentes. Il y a la logique du gars qui veut simplement s'intéresser à sa santé et travailler dans une logique de santé à long terme. Donc lui, il faut qu'on entraîne son cœur. Et à ce moment-là, on voit que l'on va arriver à une VO2 max de départ qui sera de X. S'il s'entraîne de cette manière bien régulièrement, un an plus tard, il aura gagné 10 à 15% de VO2 max, etc. Sans qu'il n'y ait aucune violence. Donc c'est vraiment un entraînement que moi j'appelle un entraînement de longévité. Si ensuite vous êtes dans une idée de performance, c'est totalement différent. Ouais. La logique n'est plus du tout la même. Mais on n'est pas dans une logique de long terme, on est dans une logique de court-moyen terme. À ce moment-là, vous êtes obligé de mettre la pression sur votre corps et le corps doit à ce moment-là réagir, tenir compte des obligations que vous lui donnez et va pouvoir développer des capacités. C'est pas la même logique. D'accord ? J'entraîne pas des sportifs.
Ouais, bien sûr.
J'entraîne des gens qui veulent... Non, mais c'est très important parce que... On a tous les deux raison, mais on n'a pas les mêmes objectifs.
Bien sûr.
Et en fait, l'entraînement...
C'est pour ça que je me permettais, voilà, excusez-moi docteur, je me permettais juste donc de dire ça. Donc pour vous, quand même, le travail à très haute intensité cardiaque, il n'est pas forcément bon pour la santé à long terme, je parle, pour la longévité.
À terme, non. Tous les sportifs de haut niveau vieillissent mal. Okay. Et j'en ai quelques-uns dans les gens que je vois. C'est après leur carrière, ils sont pas forcément très bien et ils veulent retrouver certaines sensations, ils veulent récupérer, ils sont bien rendus compte que ça les a usés. Et donc, on rentre dans un travail de réadaptation où on va, qui va être global, qui va être nutritionnel, activité physique et correction de toutes les carences qu'ils ont. Donc, c'est différent.
Super. Merci pour cette précision, docteur. Je sais que le temps tourne et ça avance et votre temps est précieux. Donc, on va peut-être repartir maintenant sur l'alimentation. Juste avant ça, j'aurais aimé qu'on parle de l'inflammation. Je pense que les deux sont liés, cette inflammation chronique. On a eu le docteur Laurent Schwartz hier qui nous a dit même que l'inflammation, pour lui, c'était le lit du cancer, qu'il y avait quand même... Un rapport entre les deux, de cette inflammation qui se chronicise. Quels sont pour vous les éléments sur lesquels on peut jouer pour justement limiter cette inflammation ?
Alors, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents niveaux d'inflammation. Vous avez, par exemple, si vous avez une plaie sur votre peau, vous allez voir, ça va être rouge, un peu boursouflé, c'est chaud, c'est de l'inflammation. Vous pouvez avoir des infections dans votre poumon, des infections au niveau de votre tube digestif. Donc, il y a plein d'endroits dans votre corps où vous pouvez avoir de l'inflammation. Donc, il faut traiter la cause. Ensuite, vous avez des inflammations qui sont plus générales, des inflammations liées à certaines maladies. Il y a certaines maladies hématologiques ou autres qui vont créer des inflammations sur l'ensemble du corps. Et puis, vous avez des inflammations très limitées à certains systèmes. Par exemple, les vaisseaux, les artères. Il faut savoir que le primum novens d'une plaque artérielle, c'est pas le cholestérol, c'est la glycation. C'est la glycation qui va se faire au niveau de l'endothélium de l'artère et qui ensuite va attirer du cholestérol, attirer du calcium quand elle se sclérose, etc. Donc, tout ce qui est micro-inflammation est souvent lié au sucre et à la glycation. Quand cette inflammation se chronicise, eh bien, il va y avoir derrière des cellules qui vont souffrir. Et quand vous avez des cellules qui souffrent, elles vont se défendre comme elles peuvent, et certaines vont pouvoir, à la limite, se cancériser. La problématique, c'est que quand c'est une articulation qui est inflammatoire, vous le savez tout de suite. Votre articulation est limitée, ça vous fait mal, c'est rouge. Bon. Mais si ça se passe à l'intérieur, vous ne le savez pas forcément. Et là, on a besoin d'un certain nombre de paramètres. Et ça devient très compliqué, parce que la vitesse de sédimentation qu'on utilise, elle n'est pas adaptée à ce genre d'inflammation très fine. Il faut qu'on aille vers des paramètres comme la protéine C réactive ultrasensible. Il faut que l'on puisse mesurer éventuellement certaines protéines de l'inflammation. Il faut qu'on regarde éventuellement certaines interleukines qui vont effectivement. Donc là, on rentre dans quelque chose d'hyper spécialisé. Alors, c'est vrai que nous, on mesure toutes ces choses, et c'est ce qui nous permet de dépister effectivement certaines inflammations chroniques. On va même aussi rechercher, vous savez, il y a des gens qui font des virus, je pense à l'Epstein-Barr, ils font ça à 20 ans, et puis ils guérissent qu'à moitié, et le virus reste dans leur corps le restant de leur vie. Donc, ça crée une inflammation à long terme qui use les autres cellules. Bon, donc il y a toutes ces choses qui existent, et c'est vrai, mon confrère Schwarz a tout à fait raison, ça fatigue l'organisme, parce que l'inflammation, c'est des ressources immunitaires qui sont consommées, qui nécessitent de l'énergie, donc ça fatigue. Mais deux, et si c'est vraiment très localisé à un endroit, eh bien ça va favoriser l'émergence de pathologies, dont les pathologies cancéreuses. Donc il y a une certaine logique. La difficulté aujourd'hui, c'est de diagnostiquer cette inflammation.
Donc avec des tests...
Ça implique des tests biologiques. Okay. Alors, permettez-moi une autre parenthèse.
Allez-y. J'ai plein d'autres questions dans le temps. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut, hein, docteur.
Vous savez qu'il y a quelque chose que l'on peut doser dans le sang, qui est en relation directe avec le muscle, qui sont les CPK, la créatine phosphokinase. Normalement, la créatine phosphokinase est une enzyme qui est présente à l'intérieur du muscle. Quand le muscle est lésé, les membranes cellulaires vont être un petit peu moins étanches et cette CPK va passer dans le sang. On peut la mesurer. Alors ça peut être lésé par la grippe. Si vous avez une grippe, vous savez, les gens ont des courbatures, ça passe dans le sang. Mais ça peut être lié à certaines maladies, comme certaines formes de myasthénie. Ça peut être également lié à l'exercice physique. Et je me souviens, moi, d'une personne qui était montée. Alors la norme en gros tourne autour des 200 unités par unité de sang, et la personne, elle avait passé tout son week-end avec des amis à se fixer des challenges de musculation, donc 10 heures pendant 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche, ça poussait des trucs, ça soulevait des machins, enfin bref, il est sorti avec 15 000 de CPK au lieu de 200. Ça a pris environ 15 jours à redescendre et à se normaliser. Mais si vous poussez trop de fonte de façon très régulière, bien vous allez créer une inflammation au niveau de vos muscles. Cette inflammation va pas rester juste au niveau des muscles, elle va diffuser dans votre organisme. Donc c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans des exercices qui soient régulés, qui soient compris, qui soient maîtrisés. Dernière chose là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut rester juste dans son canapé en train de regarder la télé.
Bien sûr.
D'accord ? Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pourrez courir sur des balles, lutter, challenger vos enfants. À ces moments-là, vous sortez des normes. Et si vous avez un entraînement régulier, vous serez meilleur que vos gamins. D'ailleurs, vous leur en foutrez plein la vue, comme on dit. D'accord ? Et ça, c'est bien. Mais c'est suite à un entraînement. Quand vous êtes entraîné, bien entraîné, vos performances, d'un coup, sont très supérieures.
Je me permets de compléter ce que vous dites en tant que kiné. Souvent, on a cette image, surtout en musculation, de la recherche de la courbature, en se disant, j'ai des courbatures le lendemain, c'est bon signe, j'ai bien travaillé. Non, vous pouvez très bien faire des bonnes séances, augmenter vos poids sans générer de courbatures et vous êtes en progression. Et au contraire, si vous avez fait si vous avez des courbatures, c'est que vous avez abîmé souvent votre tissu conjonctif. Donc, faites attention et arrêtez de penser qu'il faut absolument avoir des courbatures le lendemain. C'est complètement fou. Je me permettais juste de compléter ça, docteur.
Mais vous avez parfaitement raison.
Et je me permets juste donc de revenir peut-être sur les glucides. Ça serait quoi le problème, on a vu, par rapport à la glycation? C'est quoi? C'est la charge qui serait trop importante et la consommation? Il y a d'ailleurs, j'ai vu, apparemment, on aurait augmenté avant, on était à peu près à 1 kilo par an de glucides, de sucre, dans les années 60. Là, on serait à peu près à 40 fois plus, à 40 kilos par personne par an. C'est ce qui est énorme. C'est quoi? Est-ce que c'est justement une charge glycémique qui est importante, aussi des pics répétés aussi qui seraient importants. C'est quoi les paramètres sur lesquels il faudrait faire attention et comment y remédier en dehors de, bien sûr, limiter les glucides? L'activité physique peut-être peut aussi avoir un rôle prépondérant dans tout ça.
Alors, le taux de la concentration de sucre ou la masse de sucre que vous allez avoir dans votre corps va dépendre de deux facteurs très simples, ce que vous mangez et ce que vous consommez. Bon. À partir de là, évidemment, si vous avez une bonne musculature et une bonne activité physique, vous allez consommer plus de sucre. Mais, de façon générale, en termes de nutrition, notre bête noire, c'est le sucre. Parce que le sucre va vers la glycation, et la glycation nous dégrade de façon très efficace et depuis très tôt dans notre vie. Cette nourriture sucrée que nous avons, elle répond aussi au plaisir. Les vies des uns et des autres ne sont pas si simples que ça. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez une journée de stress, quand vous n'êtes pas bien, vous allez la plupart du temps vers des sucres. À une époque, c'était les gens qui rentraient chez eux, ça se voit encore dans des feuilletons américains, ils prennent un verre de vin. Alors, pas les petits verres de vin, hein, c'est des beaux verres de vin, hein, c'est la moitié de la bouteille. Et, ou alors ils prennent du whisky. Les Russes prennent de la vodka. Et ça le permet de les détendre. C'est l'aspect anxiolytique de l'alcool. Mais au-delà de cet aspect anxiolytique, vous avez l'aspect métabolique. Et ça vous apporte plein, plein, plein de sucre. Hein, en dehors de l'effet toxique réel de l'alcool. Hein, je ne parle même pas de ça. Je parle simplement des sucres que ça apporte. Et ces sucres, ben... on ne les métabolise pas. Donc, ils vont rester dans notre organisme et ils vont diffuser partout. Partout, ça veut dire sous la peau, au niveau du cerveau, des yeux, de la rétine, de l'ensemble de votre système artériel, de vos reins, de vos nerfs, etc. Ça diffuse absolument partout et ça va déclencher cette opération de glycation. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les gens font dans la cuisine. Hein. Vous savez, c'est la fameuse réaction de Maillard, donc c'est une caramélisation. On se caramélise tout au long de notre vie, sauf que pour nous, c'est pas top en termes métaboliques. Donc, ce qu'on devrait commencer par faire, et ça c'est vraiment notre hantise à nous en tant que longévistes ou que médecins de la longévité, ça va être de réduire d'abord nos apports caloriques. On mange trop. De façon générale, on mange trop. Et la deuxième chose, c'est dans ces apports, il faut réduire au maximum le sucre. Or, le sucre, il y en a partout. Et il y en a partout, c'est le pain. Le pain, on adore le pain. Et en France, en plus, je veux dire, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais notre pain est excellent. Hein? Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Quelle que soit la forme, on a des boulangers qui sont top. Bon, alors, les fruits, il y a le fructose. Alors, on a toujours considéré, et nous les premiers, il y a une quinzaine d'années, on disait, ok, du fructose, mais c'est compensé par les vitamines, par les oligoéléments, les polyphénols, les fibres. Donc, tout ça était pour nous favorable. Mais en fait, les études se sont accumulées pour montrer que c'était pas si simple que ça et que le fructose était un très mauvais sucre mal métabolisé par l'organisme et favorisant la glycation. Donc, on ne recommande plus que les fruits à faible dose ou alors les fruits rouges qui contiennent le moins possible de fructose. Mais ça va à l'encontre de notre culture. Donc, il faut que l'on change ces éléments-là. Alors, manger moins, manger beaucoup moins de sucre, donc favoriser plutôt les fibres. Les fibres sont tellement importantes pour notre bon fonctionnement, pour lutter d'ailleurs contre tout ce qui va être inflammation au niveau intestinal. Et puis, on pourrait parler pendant des heures de l'intestin qui est tellement important. Et puis, je dirais que ça, c'est vraiment un des aspects les plus importants. Le reste, le cholestérol, les protéines. Les protéines, on ne mange plus assez de protéines. C'est très important de manger plus de protéines, surtout si on est dans une logique de faire quelque chose comme du muscle. Il faut s'hydrater. Les gens ne s'hydratent pas assez. Souvent, lors d'un exercice, ils oublient de s'hydrater. L'hydratation est quelque chose de très important. Et vous voyez bien que le cholestérol là-dedans, il est en fin de ligne. Il faut limiter, prendre 2 camemberts par jour, 2 saucissons par jour, 300 grammes de rillettes à tous les matins. Évidemment, c'est pas bon, on le sait. Donc, il faut réduire au maximum. Donc, il y a toute une nouvelle hygiène alimentaire à bâtir avec, encore une fois, de grosses différences entre les individus. Il y a des individus et l'alcool, les fameux, le petit verre de vin rouge tous les jours, dont certains pensaient même qu'il est utile à votre santé, ça, c'est des tonnes de sucre qui s'accumulent tout au long de la vie et c'est vraiment pas bon. Alors, ensuite, ça veut pas dire qu'il faut se priver de tout. Quand vous êtes à un anniversaire, quand vous êtes heureux en famille ou dans certaines occasions, vous oubliez, vous vivez. Le petit dessert sucré qui vous fait tant plaisir, vous le prenez. C'est pas un problème, tout ça. Alors, mais vous allez compenser. Le lendemain, vous compenserez. Le jour d'après, vous compenserez en étant plus raisonnable. Et donc, en fait, si on veut finir là-dessus, je dirais que vivre en bonne santé, longtemps, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. C'est quelque chose que l'on doit véritablement faire tous les jours que Dieu fait. C'est comme on se brosse les dents matin et soir. Ça fait partie de nos routines. Et quand ça devient une routine, que ce soit en termes de nutrition, en termes d'exercice physique, en termes de correction d'un certain nombre de déficits, eh bien, vous verrez qu'au long cours, vous allez être vraiment récompensé. Il y a une autre problématique, et ça c'est très important en termes de motivation, c'est que si vous commencez à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, vous travaillez aujourd'hui pour quelque chose qui vous sera bénéfique peut-être que dans 15 ans. Et donc c'est difficile à concevoir à une époque où tout est dans l'immédiateté. Hein, je fais un truc, j'ai tout de suite une récompense. Non. Là, on lutte sur des processus, ou on travaille plutôt sur des processus qui sont des processus à très long terme. Donc, c'est comme d'ailleurs pour une voiture. Si vous avez une voiture neuve, vous faites régulièrement les entretiens. Ça va pas vous empêcher de rentrer dans un mur si vous conduisez mal. Mais révision après révision, vous mettez un maximum de chances de pouvoir conduire votre voiture en sécurité pendant un maximum de temps.
Et je pense que c'était très clair.
Voilà, mais c'est tout bête. Mais on commence pas à entretenir sa voiture quand il y a des bruits partout et qu'on a fait 150 000 km. C'est un peu tard à ce moment-là parce qu'il faut changer toute la voiture. Et n'oubliez jamais que par rapport à une voiture par rapport à un être humain, c'est que vous pouvez changer de voiture, mais vous pouvez pas changer de corps.
Donc, on va devoir vivre avec.
Chacun doit travailler sur sa santé pour la conserver le plus longtemps possible. Et à travers cette santé, vous allez avoir la longévité.
Eh bien, super. Merci beaucoup, en tout cas, docteur. J'aurais juste une dernière question parce qu'on ne l'a pas évoqué et je me permets juste, on va vraiment finir sur une minute. C'est vraiment la santé au niveau du stress, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, et le cortisol. On en parle de plus en plus du cortisol. Il est peut-être décrié à tort ou à raison parce qu'il a quand même un intérêt. Mais comment justement, quelle est votre opinion sur ce cortisol, ce stress? Quel message justement pour finir pour nos auditeurs vous pourrez leur donner et quels conseils?
Eh bien, on a beaucoup parlé d'exercice physique. Une des meilleures manières de lutter contre le cortisol, c'est l'exercice physique. Je vous rappelle que le cortisol est là pour protéger notre organisme et nous préparer soit au combat, soit à la fuite. C'est-à-dire que vous êtes face à un danger, donc soit vous devez combattre, soit vous devez fuir, mais vous avez un exercice musculaire à faire. Et le cortisol va donner à vos muscles la possibilité d'être les plus efficients possibles. C'est difficile aujourd'hui si vous vous êtes face à votre patron et que ça va pas. C'est difficile de vous jeter dessus physiquement parce que à ce moment-là, ça posera des problèmes. Et c'est aussi difficile de faire un 100 mètres dans les couloirs de votre entreprise. D'accord? Ça posera aussi un problème. Donc vous prenez sur vous. Et ce cortisol, il n'est pas utilisé du coup. Et il va favoriser justement la montée du sucre aussi, parce que le sucre est important dans le fonctionnement musculaire. Donc, ce que vous pouvez faire de la façon la plus simple possible, en dehors de la méditation, les choses comme ça, faites de l'exercice, du cardio-training à faible intensité, le plus régulièrement possible. Et c'est ce que faisaient beaucoup de gens d'ailleurs à une époque, beaucoup de gens hyper stressés qui ont des jobs terrible, eh bien, certains rentraient chez eux et prenaient leur verre de whisky, et d'autres changeaient de vêtements et allaient courir une demi-heure ou trois quarts d'heure. Sincèrement, je préfère que vous soyez dans la deuxième catégorie.
Eh bien, nous aussi, on vous le souhaite.
Et tous ceux qui veulent en savoir plus, vous avez également le livre que j'ai écrit, « Médecine de la longévité, une révolution » aux éditions Trédaniel, où reprendrez l'ensemble de ces éléments qui sont très intéressants et qui s'inscrivent dans une perspective également sociétale.
Bien sûr, il y a d'autres livres aussi que vous avez écrits. On mettra d'ailleurs tout en description ainsi que votre lien. J'allais le préciser bien sûr à la fin du podcast. Un grand merci d'avoir été présent. Je vous ai pris un peu plus de temps que prévu, donc je m'en excuse. Et à bientôt peut-être si vous avez un prochain livre ou une prochaine actualité. Ça sera avec grand plaisir de vous recevoir dans 1000%.
Ravi d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui sur cette thématique et tout le meilleur à tout le monde.
Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.